Radio Barc, 7e, 2e partie avec Sébastien Pla, sénateur de l'Aude. Alors, monsieur le sénateur, on a évoqué dans une première partie, vous nous avez expliqué ce qu'est le Sénat, ce qu'il doit être, comment il a été conçu et comment il fonctionne au quotidien. Alors maintenant, vous avez maintenant un peu plus d'une année, donc une expérience. Un sénateur, comme un député peut-être, ça agit sur des cas précis. Alors parmi les grands axes sur lesquels vous travaillez, ça ne surprendra personne quand on est sénateur de l'Aude, il y a la viticulture et un certain nombre de problèmes majeurs qui se posent aujourd'hui à la viticulture. Par exemple, la notion de l'assurance en cas de cataclysme, comme ça arrive et comme c'est arrivé au printemps dernier.
Voilà, au printemps dernier, il y a eu un électrochoc, je pense, au niveau national, vu l'ampleur du gel qui a touché toutes les régions. Et qui a vraiment mis dans l'embarras beaucoup d'exploitants agricoles et surtout une prise de conscience à la fois du public et politique de l'intérêt de réformer la question de l'assurance agricole et la question de la réponse aux catastrophes climatiques qui sont de plus en plus récurrentes. Je prends l'exemple de l'Aude, mais toujours pour trop méditerranéen. Sur les 5 dernières années, vous avez pratiquement 3 à 4 aléas sur la même exploitation, tantôt le gel, tantôt la sécheresse, tantôt une inondation. Donc on a quand même un dérèglement climatique qui est une réalité et dont l'impact est beaucoup plus fort sur notre région, en particulier dans le département de l'Aude. Et pour apporter des solutions, on ne pourra pas, le national, l'État, financer au coup par coup chaque fois l'indemnisation dans ces aléas. Il faut travailler sur le long terme et partager les risques.
D'où l'utilité d'une assurance privée. Voilà. Sait-on aujourd'hui, par exemple, dans l'Aude, quelle proportion de viticulteurs sont assurés?
Alors l'Aude fait figure de bon élève. Et c'est un petit peu... On est décalé par rapport aux autres, puisque c'est le département qui connaît le plus fort taux d'assurance en France, viticole. On n'est pas loin de la moitié des exploitants.
Donc un bon point de ce point de vue-là.
Un très bon point, et nous le revendiquons avec l'ensemble des organisations professionnelles. Le problème, c'est que le taux d'assurance en France est de 25-30% maximum sur l'ensemble des exploitations agricoles, tout type de culture. Donc, pour que l'assurance fonctionne, il faut que l'assiette soit beaucoup plus importante, sinon le risque n'est pas dilué. Donc aujourd'hui, l'idée du projet de loi qui va nous être proposé, la proposition de loi que va nous faire le ministre Julien de Normandie, je pense en janvier, est intéressante dans le sens où il permet de partager les risques entre l'exploitant qui aura et qui devrait avoir une franchise autour de 20%, l'assurance qui couvrira le risque de 20 à 50%, c'est en discussion encore, et ensuite pour les gros coups durs, vous avez des pertes au-delà de 50% jusqu'à 100%, ce sera la solidarité nationale qui s'exprimera à travers le fonds de calamité agricole.
Voilà les indemnisations donc, comme voilà. Ça se passe depuis longtemps.
Depuis très longtemps. Mais ça sera beaucoup plus clair sur des contrats d'assurance qui seront, je l'espère, beaucoup plus adaptés en adéquation avec le besoin des exploitants agricoles, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Et c'est pour ça qu'il y a très peu d'agriculteurs assurés. Mais ça sera, de mon point de vue, la solution pour faire face à ces problèmes d'aléas climatiques de même. Bon, à côté de ça, pour régler la question des aléas climatiques, par exemple la sécheresse, il se pose la question des retenues collinaires, de l'irrigation raisonnée. Il va falloir en sortir et trouver des solutions là aussi. Mais bon, il y a des risques qui eux, comme le gel, voire les inondations, peuvent difficilement se prévoir.
En ce qui concerne l'irrigation, ça semble effectivement être le sujet de beaucoup d'élus aujourd'hui. On a un syndicat au doigt qui s'appelle le SMAR qui gère les milieux aquatiques et toutes ces choses-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va assez vite ?
Alors, si j'écoute le monde agricole, non, on ne va pas assez vite, effectivement. Le dérèglement climatique va plus vite que notre capacité à nous adapter et à proposer des solutions à ce dérèglement climatique. Donc, je ne vais pas vous donner la solution là, sinon il faudrait une émission supplémentaire, ou en tout cas mon point de vue. Mais effectivement, ça va pas assez vite, et les contraintes aujourd'hui administratives qui pèsent sur les autorisations font que, évidemment, c'est très compliqué. Il faut du temps pour réaliser les projets, notamment d'irrigation. Vous parlez de catastrophes climatiques, ça me fait penser à un sujet important. Nous avons examiné il y a 15 jours une proposition de loi de modernisation du régime de catastrophe naturelle qui nous concerne, hein, en plus haut point dans le département de l'Aude. Donc j'avais, avant l'examen de cette proposition de loi, rencontré le président du SMAR, Éric Ménassy, et les présidents de bassins versants, notamment Aude-Centre et sur la Haute-Vallée de l'Aude, pour recueillir leur ressenti, leurs propositions par rapport à ce projet de loi. Qui me paraît intéressant parce que, vous voyez le département, hein, nous avons été touchés pratiquement 5 fois en 15 ans et de manière très violente. Il était important de faire évoluer les choses et en particulier le régime de reconnaissance des catastrophes naturelles. Parce qu'aujourd'hui, en mer, moi je suis là essentiellement pour défendre l'intégrité de nos mers et de nos territoires, de nos mairies, quand la commune a été sinistrée et qu'elle n'est pas classée en zone catastrophe naturelle, c'est au maire d'aller expliquer à la population et aux citoyens qui a perdu ses biens ou sa maison ou sa vigne, qui ne va pas pouvoir accéder au régime d'indemnisation. Donc nous, on a voulu beaucoup plus de clarté dans la décision du classement ou non de catastrophe naturelle, et on a introduit dans la loi la possibilité au maire de faire un recours dans la décision de les classer ou pas. Dans cette loi aussi, nous obligeons les assurances à prendre en charge les hébergements et relogements d'urgence. Donc, ça a été très, très compliqué à gérer, notamment lors des inondations ville-gaïenne à Trèbes. Heureusement que la solidarité intercommunale avec l'agglo et les bailleurs sociaux ont permis de trouver du logement et de reloger. Mais qui porte la charge de tout cela? Donc c'est inscrit dans la loi, ce sera aux assureurs. Pareil, nous avons rallongé les délais de recours pour les déclarations catastrophes naturelles pour les communes, pour les déclarations de dégâts pour les particuliers, parce qu'il y a une catastrophe naturelle, enfin un phénomène dont on ne parle pas beaucoup, mais qui coûte beaucoup plus cher, c'est la question de la sécheresse. Et vous avez bien souvent des fissures, des problèmes sur vos constructions et les maisons qui arrivent 5-6 ans après. Et vous êtes hors délai, donc oui. Vous ne pouvez pas retourner sur les assurances.
Le problème aujourd'hui, c'est que dans l'Aude, c'est parfois trop d'eau et parfois pas assez.
C'est ça. Nous sommes face à tous les aléas aujourd'hui possibles et qui existent. Donc d'où l'intérêt. Enfin, moi, c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur parce que ça nous concerne au plus haut point, cette affaire.
Oui, absolument. Autre sujet alors qui intéresse et qui concerne tout le monde, mais je ne sais pas si un sénateur a voix au chapitre, en tout cas un certain pouvoir là-dessus, c'est... Alors, disons l'accès aux soins, on parle de déserts médicaux, mais en réalité c'est l'accès de tous aux soins par manque de toubib, par exemple.
Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a vraiment une crise de la vocation. Hein. C'est une vocation, médecin, aujourd'hui. Donc certaines voix s'élèvent en disant qu'il faut imposer aux internes et aux jeunes docteurs, pendant 2 ou 3 ans ou 5 ans, l'installation en zone de sous-densification. Parce que c'est vrai qu'il y a des zones en France aujourd'hui qui attirent énormément les médecins. Hein. Vous avez des zones comme PACA, enfin, la partie Alpes-Maritimes, qui est surdotée en nombre de médecins. Mais quand on regarde les chiffres, même si on diminuait le nombre en PACA, on ne couvrirait pas le manque sur le reste du territoire français.
Oui, bah rappelons quand même qu'il y a eu ce fameux numerus clausus il y a quelques décennies qui a volontairement limité le nombre de médecins, chose qu'on paye aujourd'hui.
Oui, qu'on paye aujourd'hui, mais qui ne les a pas limités territorialement. Donc en fait, idéalement, il aurait fallu que ce numerus clausus soit associé avec des contraintes territoriales. Oui. Mais bon, là, je vois pas un ministre prendre ce genre de risque. Cela dit, beaucoup de médecins aujourd'hui m'expliquent que les jeunes docteurs, bien souvent, sont prêts aujourd'hui à exercer, mais préfèrent se réorienter dans des métiers, des spécialisations qui finalement sont aussi bien rémunérés, avec un temps de travail moindre.
Oui.
Et donc, on forme, en fait, le système forme des médecins qui, au final, n'exerceront pas, ne seront pas médecins. Donc, malgré le fait qu'il n'y ait plus le numerus clausus et que l'on forme beaucoup plus de médecins, il n'est pas certain qu'ils aillent exercer dans la médecine générale à la fin. Donc, c'est inquiétant et c'est vrai que c'est un sujet qui fait l'objet d'un travail à la fois à l'Assemblée et au Sénat actuellement pour tenter de trouver des solutions qui permettent de ramener des médecins sur les territoires sous-tendus, parce que ça ne concerne pas que les zones rurales, hein, les secteurs urbains aussi.
Apparemment, hein. Mais même une ville comme Narbonne dans certains secteurs est tout à fait touchée, donc des villes moyennes peuvent être également touchées. Et alors, quel est le... on sait par exemple que les élus locaux, municipaux ou communautaires s'efforcent de construire des maisons médicales, des cabinets, enfin, d'offrir des infrastructures qui attirent et facilitent le travail des médecins. Que peut un sénateur là-dessus ?
Alors, pas grand-chose, parce que constater qu'en fait il y a une dérégulation complète et un dumping d'un territoire à l'autre qui les met en concurrence, parce que l'un va, au-delà de lui offrir le loyer au médecin, trouver un emploi pour son épouse, va leur financer un logement, enfin qui sait, en fait il y a une surenchère d'offres qui fait que le territoire le plus riche finalement proposera plus d'offres que celui qui n'a pas les moyens et donc risque de rafler le médecin à la place de l'autre. C'est pas sain.
C'est pas la solution à la désertification médicale.
Du tout, au contraire. Et c'est pas sain parce que ça met en confrontation des territoires qui ont les mêmes problèmes et au final, il pleut toujours sur le même, quoi. Donc, nous, notre travail de parlementaire, c'est d'essayer de réguler tout ça de manière à ce que, dans une démocratie ou une république comme la nôtre, le principe d'égalité, égalité pour tous à l'accès aux services, est un principe fondamental. Donc aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de règles, on est face à ce dumping qui est malsain, à mon avis, qui est très malsain, et qui ne fonctionne pas forcément. Hein. Vous savez, parfois, j'ai eu des exemples dans l'Aude, où des communautés de communes ont fait énormément d'offres et de facilité pour accueillir des médecins, et les médecins ne sont pas restés.
Et ça ne paie pas.
Donc, vous allez me dire, vous ne donnez pas de réponse à la question. C'est vrai, j'en ai conscience. Hein. Mais bon, il y a un groupe de travail aujourd'hui au Sénat, à l'Assemblée qui travaille là-dessus, qui consulte les médecins, le milieu médical, les élus, pour tenter de trouver une solution à un problème qui est un problème qui va devenir général dans très peu d'années sur tous les territoires français, qui est grave.
Et qui l'est déjà. Et est-ce que y a des modifications législatives sont envisageables pour améliorer ?
Mais il y a des pistes.
Donc, oui, celle de l'obligation. Vous travaillez.
C'est de l'obligation, mais bon, aujourd'hui, on en est loin encore. Hein. Puis vous savez, un projet de loi, à partir du moment où vous commencez à travailler dessus, au moment où il est examiné, il faut quand même quelques mois, voire quelques années.
Donc, même quand il y a urgence.
Malheureusement, même quand il y a urgence. Les défauts de la consultation.
Un autre point, Sébastien Pla, on conclura cette deuxième partie là-dessus. Un autre point sur lequel vous avez travaillé récemment, c'est l'aide aux parcs zoologiques. Et alors, par exemple, chez nous, la réserve africaine de Sigean.
Ah oui, enfin, moi, c'est un dossier qui me tient à cœur parce que je trouve le travail qui est fait par la réserve depuis très longtemps, hein, à l'époque de M. Boisard et aujourd'hui, Mme Pellegrini et ses équipes, en tout point remarquable. C'est un site merveilleux pour le département de l'Aude, une fierté.
Oui, puis c'est un pôle fort du tourisme.
C'est un pôle fort du tourisme, mais ce que l'on sait moins, c'est un pôle aussi de reproduction d'animaux et de préservation d'espèces. Parce que bon, il y a une polémique aujourd'hui sur les parcs animaliers aussi, on voudrait les faire fermer et remettre les animaux en pleine nature. Sauf que on a des espèces à réserve africaine qui n'existent quasiment plus dans le monde.
Oui, de nombreux zoos, finalement, aide à la conservation de la biodiversité.
Tout à fait. Et en fait, Mme Pellegrini m'avait contacté il y a un an et demi, par rapport à la question du Covid et aux pertes de chiffre d'affaires, puisque la réserve était fermée et que quand vous n'avez aucune rentrée liée à la fréquentation touristique, il faut quand même continuer à nourrir les animaux, à payer les soignants. Donc j'avais réussi à obtenir, en étant soutenu par une cinquantaine de députés et de sénateurs de tous bords politiques confondus, des départements où il y a des parcs zoologiques. Du coup, ça m'a permis d'obtenir un rendez-vous à Bercy auprès du ministre Alain Griset, qui, en fait, n'avait pas vu qu'il y avait un trou dans la raquette. Les cirques, par exemple, étaient accompagnés sur des pertes de chiffre d'affaires.
Mais pas les parcs zoologiques.
Voilà, pas les parcs zoologiques. Et donc, nous avons pu combler ce trou dans la raquette grâce à l'initiative de mon équipe, et qui a permis d'aller plus loin, qui a permis aussi d'être transposé pour les discothèques, par exemple, ont obtenu le même dispositif. Ça, on ne le sait pas, mais je ne veux pas dire que j'ai sauvé les discothèques, mais j'ai contribué à aider les discothèques. Mais toujours pareil, hein, à partir des besoins du terrain, moi, je ne suis que l'interface pour tenter de trouver des solutions pour améliorer les choses.
Voilà, alors ça c'est amusant de l'apprendre, parc zoologique et discothèque, même combat. Merci Monsieur Pla. On marque une deuxième pause, on se retrouve pour une troisième partie où l'on va parler un petit peu plus de vous. Alors le sénateur, qu'est-ce qu'il fait quand il n'est pas sénateur ou quand il l'est encore ?